Lizzie présente La poursuite du bonheur de Douglas Kennedy, lu par Catherine Arondel. À Grace Carley, toujours. Nous n'agissons pas comme il faudrait, et ce qu'il ne faudrait pas, nous le faisons. Et puis nous nous rassurons avec l'idée que la chance sera notre allié. Matthew Arnold. Première partie, Kate. Chapitre 1. La première fois que je l'ai vue, c'était devant le cercueil de ma mère. Dans les 70 ans, grande, anguleuse, de beaux cheveux gris sévèrement retenus en chignon sur la nuque. Tout à fait le genre de femme auquel j'espère ressembler, si jamais je parviens jusqu'à son âge. Elle se tenait très droite, le dos refusant de ployer sous le poids des ans. Sur ses traits harmonieux, la peau était restée souple, avec quelques rides qui, loin de marquer son visage, lui conféraient du caractère, une certaine gravité. Elle était encore belle, d'une beauté discrète, altière. On devinait que le temps était tout proche où les hommes l'avaient admirée. Ce sont ses yeux, pourtant, qui ont plus particulièrement attiré mon attention sur elle. D'un bleu presque gris, attentif à tout, critique, avec juste une pointe de mélancolie. Mais qui n'est pas mélancolique à un enterrement? Qui, en contemplant un cercueil, ne s'imagine pas allongé à l'intérieur? On dit que les funérailles sont faites pour les vivants, non pour les morts, et ce n'est que trop vrai. Nous ne pleurons pas seulement sur les disparus, mais aussi sur nous-mêmes, sur la brièveté choquante de la vie, sur cette accumulation permanente de futilité, sur tous les faux pas que nous commettons en descendant le chemin de l'existence. Tels des étrangers dépourvus de repères et de cartes, pris à défaut par chaque tournant. Quand je l'ai fixée, elle a détourné son regard avec embarras, comme si je venais de la surprendre en train de m'observer. L'enfant en deuil est évidemment le centre d'intérêt dans ce genre de situation. Les autres attendent que vous, l'être le plus proche du défunt ou de la défunte, donniez le « là » émotionnel de la réunion. Si vous vous mettez dans un état épouvantable, ils n'auront pas de scrupule à laisser libre cours à leur chagrin. Si vous sanglotez, ils s'autoriseront quelques larmes. Et si vous gardez tout en vous, ils sauront aussi se contrôler, se montrer correct. Alors, comme j'étais très disciplinée, très correcte, ainsi se comportait la vingtaine de personnes venues accompagner ma mère dans son ultime voyage, selon l'expression employée par l'ordonnateur des pompes funèbres, lorsqu'il m'avait annoncé le prix qu'il allait me prendre pour la transporter de la chapelle de repos sur la 75e rue au niveau d'Amsterdam Avenue jusqu'à sa demeure éternelle, à Flushing Meadow, juste sous l'axe des avions en approche de l'aéroport de La Guardia. Elle avait déjà fui mon regard quand j'ai entendu un grondement de réacteur qui m'a fait lever les yeux vers le bleu hivernal du ciel. Nul doute que certains membres du cortège funèbre ont cru que je m'étais plongée dans la contemplation du paradis lointain et que je me demandais quelle place ma mère avait prise dans la céleste immensité. En réalité, je ne cherchais qu'à distinguer les couleurs de l'appareil engagé dans sa descente. US Air. Ouais, un de ces vieux 727 dont ils se servent encore sur court courrier. Sans doute la navette de Boston ou celle de Washington. Incroyable la banalité, le n'importe quoi de ce qui peut vous traverser l'esprit aux moments les plus graves. « Maman ! Maman ! » Ethan, mon fils, secouait la manche de mon manteau. Sa voix de garçonnet de 7 ans couvrait celle du pasteur épiscopalien qui, en face de la bière, récitait avec solennité un passage de l'Apocalypse. « Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. » Et la mort ne sera plus, ni deuil, ni pleurs, ni souffrances ne seront plus, car ce qui est passé s'en est allé. J'ai eu du mal à avaler ma salive. Ni deuil, ni pleurs, ni souffrances. On était loin de ce qu'avait été l'histoire de ma mère.
« Maman, maman !»
Ethan insistait, s'agrippait plus fort. Tout en posant un doigt sur mes lèvres, j'ai passé mon autre main dans sa tignasse d'un blond sale et je lui ai chuchoté.
« Pas maintenant, mon chéri !»«
Mais je dois faire pipi !»
J'ai refoulé un sourire. « Papa va t'amener !» lui ai-je glissé en relevant la tête pour chercher des yeux mon ex-mari, Matt. Il se tenait de l'autre côté du cercueil, en retrait du petit groupe. En le voyant entrer dans la chapelle le matin, je n'avais pas été peu surprise. Depuis qu'il nous avait laissés 5 ans plus tôt, Ethan et moi, mes relations avec lui s'étaient cantonnées à un plan purement pratique. En clair, les seuls mots que nous avions échangés n'avaient concerné que notre enfant et les hideuses questions d'argent qui, en général, obligent même les protagonistes des divorces les plus empoisonnés à se parler au téléphone. Ces quelques tentatives de conciliation s'étaient heurtées à un mur de glace de ma part. Si bizarre que cela puisse paraître, je ne suis jamais vraiment arrivée à lui pardonner d'avoir pris la porte pour tomber droit dans les bras de... d'elle. Miss Sus Micro, la poupée journaliste de Channel 4 New York. Ethan avait 2 ans et 1 mois à l'époque. Mais enfin, il faut savoir encaisser ce genre de petits coups du sort, n'est-ce pas? Surtout que Matt était si prévisiblement, si caricaturalement masculin. Il y a toutefois un point que je dois concéder à celui qui a été mon mari. Il s'est révélé un père aimant et dévoué. D'ailleurs, Ethan l'adore. Ce que toute l'assistance autour de la tombe a pu remarquer lorsqu'il a contourné à toutes jambes le cercueil de sa grand-mère pour se jeter dans les bras de son père. Matt l'a hissé dans ses bras, j'ai vu Ethan murmurer sa pressante demande dans son oreille, et après un bref signe de tête à mon attention, Matt l'a emporté sur son épaule vers les toilettes les plus proches. Entre-temps, le pasteur était passé à ce vieux classique des enterrements, le psaume 23. Tu dresses la table devant moi, à la face de mes ennemis. Tu parfumes d'huile ma tête, ma coupe est pleine à déborder. J'ai entendu mon frère Charlie refouler un sanglot. Il était placé à l'arrière des rangs clairsemés. Il remportait haut la main le titre de la plus grosse surprise à ses obsèques, depuis qu'il avait surgi à la chapelle tout juste débarqué du premier avion de Los Angeles, aussi hagard que mal à l'aise. Il m'a fallu un moment pour le reconnaître, parce que je ne l'avais pas revu depuis 7 ans et que le temps avait opéré sa cruelle magie sur lui, le transformant en homme d'un certain âge. Bon, je ne suis plus moi-même ce qu'on appelle une jeunesse. La mutation est toute récente, je précise. Mais Charlie, avec ses 55 ans, soit 9 de plus que moi, paraissait maintenant franchement mûr, pour ne pas dire usé. Il avait perdu la plus grande partie de ses cheveux et toute son allure. Ses traits s'étaient empâtés et sa taille, enflée en chambre à air, faisait de son costume de deuil mal ajusté une faute de goût encore plus consternante. Une cravate noire constellée de taches de sauce pendouillée de son col de chemise ouvert. Toute son apparence évoquait de désastreuses habitudes alimentaires et un désenchantement général. Si ce dernier sentiment m'était nettement familier, je n'en étais pas moins sidérée par les ravages que le temps avait produits sur lui, et non moins étonnée qu'il ait traversé le continent pour venir dire au revoir à une femme avec laquelle il ne gardait que des liens de politesse depuis 30 ans. Quand il s'était approché de moi dans la chapelle et qu'il avait lu la stupéfaction sur mon visage alors qu'il s'apprêtait à me prendre dans ses bras, il s'était contenté de serrer mes mains dans les siennes. Il y avait eu un moment de gêne, aucun de nous ne trouvant quoi dire. Finalement, c'est moi qui ai retrouvé l'usage de la parole. Pour une surprise. Je sais, je sais. Tu n'as pas eu mes messages? Si, Cathy, je suis vraiment désolée. Je me suis dégagée brusquement. Pas besoin de me présenter tes condoléances, ai-je lancé d'une voix étonnamment calme. Après tout, c'était ta mère aussi. Ou tu avais oublié ?